parce que cette année, on a découvert justement ce mouvement de femmes qui combat au Rojava, à Kobané. Kobané, ça a donné l'opportunité aux Kurdes de se faire connaître beaucoup plus dans le monde. Kobané était un résultat, était le fruit de toutes ces années de lutte du mouvement des femmes kurdes depuis plus de 40 ans maintenant. Le mouvement des femmes kurdes n'est pas arrivé seulement avec la révolution féminine au Rojava, mais a existé depuis 40 ans dans les quatre parties du Kurdistan. Comme vous savez, le Kurdistan est divisé en quatre depuis 1923, depuis le traité de Lausanne. Il y a eu beaucoup de figures emblématiques du mouvement des femmes kurdes, beaucoup de femmes aussi en elles-mêmes qui ont été connues dans l'histoire des Kurdes. Il y a eu des artistes tels que Ayşe, Meryem Khan. Il y a eu aussi des militants, des guerrières ou des guérillas ou des peshmerga comme Leyla Kasimo. Et dans les années 70, il y a eu un mouvement de femmes qui a commencé à exister dans le mouvement de la libération du Kurdistan, dont la première membre et dans la première membre et cofondatrice du mouvement était Sakine Cansız, qui par la suite, je vais expliquer, a été assassinée le 9 janvier 2013 à Paris. Sakine Cansız a été l'une des premières figures emblématiques du mouvement des femmes kurdes. Elle a été le symbole aussi de la résistance du peuple kurde, le symbole de la résistance dans les geôles de Diyarbakir, dans la prison de Diyarbakir. C'était une femme en même temps et c'était une kurde, donc elle était discriminée à double identité. Premièrement en tant que femme, deuxièmement en tant que kurde. Pendant 10 ans, elle a subi des tortures vraiment inhumaines et que je ne pourrais pas expliquer ici, tellement elles sont frappantes, dans les prisons de Diyarbakir. Je vais seulement citer un des exemples de ces méthodes de torture qu'elle a vécues. C'était un jour après une séance de torture très difficile qu'elle rencontra le soldat, le général, qui était le responsable des geôliers tortionnaires dans la prison de Diyarbakir, et sa compagne. Elle s'était fait couper le bout des seins dans la séance de torture. Mais malgré ça, elle n'avait pas dit aïe. Pas dit aïe, elle avait seulement dit qu'il ne fallait pas qu'elle parle, qu'il ne fallait pas qu'elle pousse un cri, parce qu'elle défendait une juste cause. Elle défendait une juste cause, celle de la libération du peuple kurde. 10 ans après, elle a été libérée, et pendant tout ce temps-là, les femmes kurdes, à partir de cette résistance, ont commencé à se mobiliser partout. Pas seulement en Turquie, pas seulement en Iran, pas seulement en Syrie, pas seulement en Irak, mais en Europe aussi. La première association, la première organisation du mouvement des femmes kurdes a été fondée en Europe, à Cologne, en 1987. Ça s'appelait l'Union des femmes compatriotes du Kurdistan. Et par la suite, en 1992, elles ont commencé à s'interroger, à se questionner face au système patriarcal, face à tous les codes du système patriarcal, à tous les codes masculins, aussi bien dans les communautés féodales, aussi bien dans les sociétés bourgeoises qu'aussi bien dans la famille en elle-même, contre son père, contre son mari et à l'égard de son fils, qui ont été lourdement imprégnés justement par cette culture conservatrice du Moyen-Orient. Alors elles ont commencé à s'interroger sur leur identité. Elles ont commencé à s'interroger sur l'émancipation des femmes, sur le féminisme. Elles se sont imprégnées de beaucoup d'héritages de Clara Zetkin, de Rosa Luxembourg, d'Olympe de Gouges. Elles ont commencé à se former, à s'éduquer pour mieux se comprendre, les femmes. Et elles ont décidé, justement, de s'organiser indépendamment des hommes dans les années 90, dans le début des années 90. Et ça, aussi bien dans le mouvement social que dans la lutte armée. Parce que les femmes, pour se faire accepté par les hommes, parce qu'il était, il y a des questions de se faire accepter à l'époque, il fallait qu'elles utilisent de multiples conditions, aussi bien, je dis bien, dans la lutte armée que dans les mouvements sociaux, dans les rangs politiques, que dans la guérilla. C'était une période très très difficile. Et pour cela, c'était toute une lutte idéologique des femmes contre le système patriarcal, contre le système impérialiste et capitaliste. Alors, la première chose qu'elles ont faite, c'est qu'elles se sont séparées aussi physiquement dans les montagnes. Elles ont commencé à s'organiser en unité spéciale féminine, avec leur propre commandement, Et vous savez qu'au début, ces femmes-là, elles étaient, dans les années 80, dans le mouvement, elles se coupaient les cheveux très courts pour ne pas se faire reconnaître en tant que femme. Elles mettaient le voile pour ne pas être reconnues quand elles allaient dans les familles, parce que ce n'était pas coutume qu'une femme aille se battre avec une arme sur l'épaule dans les montagnes. La femme, le devoir de la femme était de rester à la maison, d'aider ses enfants, d'être une bonne mère, tout simplement. Mais elles ont cassé tous ces tabous. Elles ont réussi à casser tous ces tabous, et en 1995, elles ont fondé leur propre organisation. Et Sakine Jansos était encore, à cette époque-là, sortie de prison, arrivée sur les montagnes, et la fondatrice de ce mouvement des femmes. Donc ça s'appelle l'Union des femmes du Kurdistan. Par la suite, ce mouvement n'a pas suffi. Il fallait qu'elle soit reconnue aussi au niveau politique. Et là, la lutte a commencé aussi dans les arénas politiques, en Turquie, par exemple. Pour la première fois, en 1994, tout le monde s'en souviendra, les femmes qui suivent de près la cause kurde se souviendront de Leyla Zana. Leyla Zana qui était la première femme qui avait juré solennellement en kurde à l'Assemblée nationale turque et qui, pour cela, a été emprisonnée pendant plus d'une période de 10 ans. Mais aujourd'hui, Leyla Zana est de nouveau redevenue députée et de nouveau élue parlementaire à la Grande Assemblée nationale. Donc, la première lutte politique était sur le terrain, contre tous les partis politiques de l'époque, contre le MHP, le CHP, et beaucoup d'autres partis politiques turcs. Et ces partis ont été vraiment plusieurs fois opprimés, oppressés par le gouvernement turc. Et ça, cela n'existe pas partout dans le monde. En France, aujourd'hui, bien sûr, on a beaucoup de contradictions avec les autres partis. Le Parti communiste a beaucoup de contradictions, par exemple, avec les autres partis. Mais ce qui est exercé actuellement en Turquie n'existe nulle part ailleurs. Alors que les personnes sont élues, ces personnes sont encore attaquées pendant les manifestations, et battues par les forces de l'ordre, et arrêtées par les forces de l'ordre, alors que ces personnes sont élues. Pour passer cela, par la suite, donc je passe brièvement, parce que c'est très long, ça a duré 40 ans toute cette histoire, le mouvement des femmes kurdes a décidé de se fonder en partie idéologique aussi. Et donc ça s'est passé en 1999, juste après l'enlèvement d'Abdullah Öcalan et son incarcération sur l'île de prison d'Imrali, en Turquie. Elles ont voulu répondre justement face à ce complot, à ce que le projet d'Abdullah Öcalan pour la libération des femmes puisse exister réellement et être exercé réellement dans la pratique. Et suite à cela, aujourd'hui, elles sont meneuses d'un nouveau système qu'on appelle le système démocratique autonome, le système confédéral. Elles sont à 50% élues dans toutes les institutions de la société, ce qu'on peut voir aujourd'hui au Rojava. Au HDP, elles sont co-maires, donc co-maires des municipalités. Au Rojava, elles sont co-maires et aussi elles sont co-présidentes des gouvernements cantonaux qui existent au Rojava. Elles sont très actives dans les assemblées populaires, dans les assemblées féministes. Et elles sont très actives aussi au sein des unités de défense de l'IPJ qui combat aujourd'hui contre Daesh d'une façon très acharnée à Kobané et dans toutes les autres régions du Rojava. Mais tout cela a été justement basé sur cet héritage de 40 ans qui a dû à la mort des milliers et milliers de femmes qui ont lutté, qui se sont sacrifiées justement pour que ce système arrive à exister, pour que ce système arrive à s'instaurer au plein centre du Moyen-Orient. Quand on parle des Kurdes aujourd'hui, on ne parle plus de victimes, mais on parle de résistance. On ne parle plus de souffrance, mais on parle de victoire. Et ça, il a fallu beaucoup de sacrifices pour que cela arrive. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, où on parle actuellement, il y a encore des centaines et centaines de combattants et combattantes qui luttent acharnement à Kobané, à Kamoucho, à Serekani, au Rojava, mais aussi à Sinjar, à Shengal, en Irak, au Kurdistan irakien, mais aussi dans beaucoup d'autres parties du Kurdistan, notamment dans la partie d'Iran aussi. Les femmes sont à l'avant partout. Les femmes aujourd'hui ne sont pas un tableau de souffrance, mais sont un exemple pour les mouvements d'organisation de femmes au niveau international. C'est pourquoi, comme je le disais tout à l'heure, Marche mondiale cette année a décidé de rendre hommage à ces femmes combattantes. Aujourd'hui, ces femmes n'hésitent pas à sacrifier leur vie pour passer à l'avant de ces chars de Daesh qui attaquent inhumainement les enfants, les femmes, qui exécutent inhumainement tout ce qu'il y a sur le passage. Et on a eu un exemple de sacrifice qui a été diffusé partout dans la presse internationale, c'était celui de Harin Mirka, qui n'a pas du tout hésité à donner sa vie pour sauver ses camarades qui étaient en train de combattre contre Daesh à Kobané. Quand je parle ici, je voudrais aussi leur rendre hommage à toutes ces femmes. Elles avaient la vingtaine, peut-être la trentaine. Elles avaient toute une vie devant elles, mais elles ont décidé de prolonger la vie des autres. Quand je dis des autres, de toute l'humanité, pas seulement des Kurdes. Parce que ce combat qui existe actuellement, ce n'est pas seulement le combat des Kurdes, c'est le combat de l'humanité. C'est ce qu'on essayait d'expliquer pendant tout le conflit à Kobané. Et malheureusement, on a vu aussi cette guerre en France le 7 janvier, le 9 janvier, à Paris, quand ils ont attaqué Charlie Hebdo, quand ils ont attaqué le magasin d'alimentation Kacher. On a vu aussi que cette barbarie pouvait arriver en Europe et qu'elle existait partout. Donc cette lutte qu'on mène, ce n'est pas une lutte simplement sur le terrain, ce n'est pas une lutte du point de vue armé. C'est une lutte sociale, c'est une lutte idéologique. C'est une lutte contre le système patriarcal. Pour nous, aujourd'hui, le mouvement des femmes kurdes, Daesh est la représentation suprême du mouvement patriarcal. Parce qu'il exerce, toutes les formes de violence qui existent dans le monde. Elles sont porteuses de féminisme, de laïcité, d'égalité et de démocratie et de liberté pour toutes les femmes du monde entier. Thank you.